Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de Pâques. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors que c'est encore la ténèbre, Marie de Magdala vient vers le sépulcre. Elle constate que la pierre est enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient auprès de Simon-Pierre et auprès de l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit,
« Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous n'avons pas vu où l'on peut l'avoir mis. »
Pierre sort donc ainsi que l'autre disciple. Ils viennent au sépulcre. Les deux courent ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre, et il vient le premier au tombeau. En se penchant, il constate que les bandelettes sont là, étalées. Mais il n'entre pas. Alors, Simon-Pierre, qui le suit, vient. Il entre dans le sépulcre. Il remarque les bandelettes là, étalées, et le voile qui était sur la tête de Jésus. Il n'est pas étalé avec les bandelettes, mais il est roulé à part, en un endroit distinct. Alors l'autre disciple entre, celui qui est arrivé le premier au sépulcre. Il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore vu le sens de l'Écriture, qu'il faut que lui se relève d'entre les morts.
Bonjour André.
Bonjour Georges.
Alors, il n'avait pas encore vu le sens de l'Écriture qu'il faut que lui se relève d'entre les morts. En effet, les disciples ne s'attendaient pas à cette résurrection du Christ. C'est une chose qui est très attestée, et ça dans tous les récits évangéliques. Après la mort de Jésus, les disciples se tairent par peur des chefs juifs. Ils sont effrayés dans le récit de Luc. On nous montre les deux compagnons d'Emmaüs comme des gens qui sont déçus et démoralisés. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais cela n'a pas eu lieu, et les disciples ressemblent plutôt à des gens qui s'apprêtent à vivre avec leurs souvenirs.
Eh bien oui, Georges, que s'est-il donc passé au juste pour qu'après 2000 ans, des hommes et des femmes affirment leur foi en Jésus vivant ressuscité? Le passage d'aujourd'hui apporte-t-il une certaine réponse?
Eh bien, on va commencer par situer le récit. Dès que Jésus a rendu le dernier soupir, ses amis font diligence pour l'ensevelir parce que le sabbat, qui est le jour du repos, commence. Joseph d'Arimathée va faire les démarches auprès de Pilate. Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes, avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. C'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Voilà, eh bien les apôtres et les disciples vont vivre le deuil qui, selon la coutume, peut durer 8 jours. C'est dans cette ambiance de ténèbres que, le sabbat terminé, Marie de Magdala se rend au sépulcre.
Qui est cette Marie de Magdala?
Eh bien, les récits évangéliques nous disent qu'elle est originaire d'une bourgade qui est située au bord du lac de Tibériade. Elle était présente au calvaire avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Luc, dans son récit, nomme une Marie appelée la Magdaléenne, de laquelle, dit-il, il était sorti 7 démons. Cette Marie fait partie du groupe de femmes qui suivent Jésus et dont on dit aujourd'hui qu'ils sont les disciples féminins de Jésus. Marie, elle, vient sans doute au sépulcre pour pleurer celui que son cœur aime, et elle va constater que la pierre a été enlevée du sépulcre. Pour ces disciples de Jésus qui n'ont plus dans le fond que leur souvenir, voilà qu'on leur enlève même le corps du disparu. Alors le maître va être définitivement absent. Sans même entrer dans le sépulcre, Marie court auprès de Pierre et du disciple que Jésus aimait.
« On a enlevé le Seigneur de ce tombeau, et nous n'avons pas vu où on peut l'avoir mis. »
Nous n'avons pas vu. Eh bien, ce verbe grec qui signifie « avoir vu », mais « avoir vu » au sens de « comprendre » et qui est donc traduit souvent par « avoir su », nous ne savons pas où on l'a mis. Ce verbe grec revient souvent dans les récits de Jean. On peut en donner quelques exemples. À Cana, le maître du repas n'a pas vu d'où vient l'eau devenue vin. La Samaritaine n'a pas vu le don de Dieu en Jésus. Dans ce même épisode, les disciples n'ont pas vu la nourriture qui est celle de Jésus et qui est la parole de Dieu. Au sépulcre, Marie n'a pas vu que le jardinier est Jésus. On a peut-être ici ce procédé dans lequel du récit johannique, par lequel Jean va sans cesse nous faire passer d'un plan matériel à un plan spirituel ou d'un plan humain à un plan divin. Lorsque Marie va faire la rencontre du ressuscité, alors Jésus va lui faire voir le lieu où il se trouve désormais. Il lui dira qu'il monte vers le Père. Au Saint-Sépulcre de Jérusalem, aujourd'hui, il y a une plaque qui indique « Il n'est pas ici ». En effet, pour toute la durée de l'histoire, le lieu où Jésus a été mis, eh bien, c'est désormais la droite de Dieu. C'est là et c'est là seulement que ses disciples doivent le chercher. Le récit de Luc explique bien cela. Les messagers divins diront « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. »
Comment va se faire le passage du désespoir à la foi en Jésus ressuscité?
Eh bien, le récit va souligner ce passage par une certaine progression qui est marquée par les verbes. Remarquons l'attitude des trois personnages. Marie constate que la pierre a été enlevée du tombeau. Jean, le disciple que Jésus aimait, constate que les bandelettes sont là, étalées. Et Simon-Pierre remarque les bandelettes qui sont étalées. Une première fois, donc, les trois personnages font un constat. Constat que le sépulcre est vide, vide du corps, et que seules les bandelettes qui l'entouraient sont restées. Et c'est alors que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, entre, et là on a le verbe « voir ». Il voit et il croit. Lui, on ne nous dit pas qu'il remarque ou qu'il constate, non, il voit et il croit.
Qui est ce disciple que Jésus aimait?
Toute la tradition l'a identifié comme étant l'apôtre Jean lui-même. On dit que ce serait une façon pour lui de signer le récit évangélique, qu'on appelle le récit selon saint Jean. Mais des spécialistes de l'évangile ont suggéré d'autres noms, comme celui de Thomas. L'important, je pense, peut-être est de réfléchir pourquoi ce qualificatif, le disciple que Jésus aimait. Et avec Marcel Jousse, il me semble qu'il ne faut pas interpréter cela en termes psychologiques. Regardons de plus près le sens du mot « disciple ». En latin, le mot vient d'une racine, « dek », qui signifie « acquérir une connaissance ». Dans le texte grec de l'Évangile, c'est le mot « mathétès » qui vient du verbe « mantano », un verbe qui signifie « apprendre, étudier ». Le disciple, c'est donc celui qui apprend les leçons de son maître. Et nous allons citer Marcel Jousse dans son livre « La mendication de la parole ».
Parmi les appreneurs fidèles, certains sont mieux doués, par exemple au point de vue de la mémoire, et cet avantage est fondamental dans un milieu ethnique d'appreneurs par cœur. Aussi, ne sommes-nous pas étonnés de trouver, dans le milieu des appreneurs de Yeshua, celui qui se caractérisait lui-même l'appreneur que préférait Yeshua. On détruit indûment toute caractéristique pédagogique en traduisant sur le mode affectif cette expression « comme on le fait d'ordinaire, le disciple que Jésus aimait.
Donc Marcel Jousse préfère l'apprenant préféré. Même en effet, s'il y a eu une affection plus spécifique entre Jésus et ses disciples, cette affection vient d'abord de ce qu'il est l'apprenant le plus fidèle. Ce disciple était préféré parce qu'il retenait le mieux, dans la mémoire du cœur, l'enseignement du maître. Or, cette mémoire du cœur, ce n'est pas seulement un bon enregistreur, comme on dirait aujourd'hui. La mémoire du cœur, c'est le lieu de la véritable compréhension des choses. Parce qu'on ne garde, dans cette mémoire profonde, que les choses qu'on a méditées longuement. Cet apprenant préféré va être celui qui va passer du constat du sépulcre vide à la vision de foi que Jésus s'est relevé de la mort.
Alors l'autre disciple entre, il voit et il croit. Pourquoi l'apprenant préféré est-il le premier à croire en la résurrection?
Oui, le récit nous dit « il voit, il croit » et il ajoute tout de suite « jusqu'à ce moment, il n'avait pas vu » le sens de l'écriture qu'il faut que lui se relève d'entre les morts. Il n'est pas étonnant que ce soit l'apprenant le plus fidèle qui, le premier, va faire le lien entre la disparition du corps et justement les paroles. Les paroles de l'Écriture, les paroles de Jésus qui annoncent la résurrection. Dans les récits évangéliques de Jean et de Luc, cette foi en la résurrection va être toujours liée aux Écritures, c'est-à-dire à l'enseignement qui a été révélé par Dieu et à l'interprétation que Jésus en a donnée. Au chapitre 2 de Jean, qui relate la purification du temple, nous avons ce dialogue.
Les Juifs disent à Jésus, « Quel signe nous montres-tu pour faire cela ?» Jésus répond, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il parlait du temple de son corps. Quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Il ne s'agit pas seulement de croire à la parole de Jésus, mais de croire aux Écritures saintes et à la parole de Jésus, cette parole qui interprète ces Écritures. Prenons des exemples. Dans le récit de Luc, le ressuscité va apprendre aux 2 disciples d'Emmaüs comment il faut comprendre les Écritures.
En commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Et lorsque les disciples vont reconnaître Jésus à la fraction du pain, ils se disent l'un à l'autre.
Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous ouvrait au sens des Écritures?
Il nous ouvrait au sens des Écritures. Nous n'avons pas vu encore le sens des Écritures, dit notre texte. Le jour de la Pentecôte, sous le souffle de l'Esprit divin, Pierre va utiliser les Écritures pour dire la résurrection de Jésus. Il cite un psaume attribué à David, et qui, au moins dans sa version grecque, parle de la résurrection.
« Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne sois pas ébranlé. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton fidèle connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. »
Oui, c'est un texte qui nous montre d'ailleurs comment l'Écriture dans le milieu juif est toujours vivante, car dans la version hébraïque du psaume, on ne parle pas aussi explicitement de la résurrection, mais la version grecque, qui est beaucoup plus tardive, 2 siècles, 2 ou 3 siècles avant Jésus, eh bien, on a explicité le texte pour qu'il parle de la résurrection. Et selon cette conception juive d'alors, le sépulcre, eh bien, il représente le séjour des morts, ce que les Juifs appellent le Sheol, où les morts descendent et ne peuvent pas remonter. Nous avons cela, d'ailleurs, traduit dans la formule du symbole des apôtres, il est descendu aux enfers, il est descendu au Sheol. Or, seul Dieu peut faire remonter du Sheol, et c'est justement ce qui est arrivé à Jésus. Alors Pierre applique les propos de David à Jésus.
Le patriarche David était prophète. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. »
Oui, la mémoire du cœur de l'apprenant préféré est celle justement qui est chargée de toutes ces paroles de l'Écriture et ces paroles de Jésus qui commentent l'Écriture. Et c'est parce que cette mémoire du cœur est chargée de ces paroles qu'elles vont pouvoir l'éclairer sur la résurrection. Mais ajoutons que le lien entre la résurrection et les Écritures n'est pas d'abord dans telle ou telle citation. Il s'agit bien plus profondément de comprendre le sens qu'a la souffrance et la mort de Jésus. Ce sens, c'est celui-ci. Le juste, qui donne sa vie au lieu de faire violence à ceux qui veulent le détruire, eh bien ce juste-là, non seulement sauve l'amour de son cœur, il le garde vivant, mais il devient, par le fait même, une source d'amour, car Dieu le relève de la mort. Et les chants du serviteur d'Isaïe, au chapitre 53, nous allons faire une citation, avait-tu déjà cette intuition ?
Ayant payé de sa personne, mon serviteur verra une descendance et sera comblé de jour. Mon serviteur juste justifiera des multitudes, il prendra la charge de leurs fautes.
Les paroles prononcées par Jésus lors de la fraction du pain pendant le repas ultime du Jeudi Saint explicitent bien cela. Il dit en partageant le pain, « Voici, c'est moi, corps et sang, qui me livre pour le pardon des fautes de la multitude. » Oui, de la mort du juste va jaillir la vie. Cette vie va jaillir pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour ceux qui seront en communion avec lui. On peut dire d'une certaine manière que le sépulcre vide, n'est pas par lui-même une preuve de la résurrection. C'est l'Écriture qui peut faire voir le sens de ce sépulcre vide, de cette sortie du tombeau. Dieu a relevé d'entre les morts celui qui a sauvegardé l'amour dans son cœur.
La suite du récit fera état des apparitions de Jésus. Quel rôle les apparitions jouent-elles dans la foi ?
Eh bien, dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul montre bien que cette résurrection de Jésus est au cœur même de la foi.
Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attaché, et par lequel vous serez sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton.
Voilà un texte qui date du début des années 50, qui est donc antérieur à la rédaction des récits évangéliques, eh bien ce texte très ancien montre que la foi en la résurrection s'appuie tout autant sur les Écritures que sur les apparitions. Les apparitions, en effet, ne sont pas, à proprement parler, des confirmations des Écritures. On pourrait dire que, pour voir le ressuscité, il faut d'abord avoir vu le sens des Écritures. On a d'ailleurs une bonne indication de ça dans la parabole de Lazare et du riche, où Jésus dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc s'ils ne comprennent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un se relève d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » On peut faire une comparaison. Celui dont le cœur est totalement fermé à l'amour, dont le cœur est empli de haine et d'agressivité, celui-là ne peut pas voir l'amour dans le regard de ceux qui l'entourent. Eh bien, de la même manière, pour voir le ressuscité, il faut s'être mis d'abord sur la longueur d'onde de la résurrection, et cette longueur d'onde de la résurrection est celle de l'amour qui livre sa vie. Les apparitions, d'ailleurs, ne seront pas nécessaires pour l'immense foule des disciples de Jésus qui va suivre ses premiers chrétiens. Jésus, d'ailleurs, l'a dit à Thomas, « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Eh bien, ceux-là, et nous en sommes, nous croirons sur la parole des premiers témoins. Saint Jean écrira dans sa première lettre,
« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons. »
Et quand il s'agira de trouver un remplaçant à Judas dans le groupe des douze, c'est parmi les témoins de la résurrection qu'on fera le choix.
Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps, où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Cette résurrection de Jésus survenue il y a 2000 ans, que peut-elle signifier dans nos vies?
Oui, qu'est-ce que cela change pour nous personnellement? Certes, nous affirmons notre foi que Jésus est ressuscité, mais est-ce que cela nous donne la santé si nous sommes malades? Est-ce que cela nous donne la nourriture si nous avons faim? Est-ce que cela nous donne du travail si nous sommes chômeurs? Est-ce que cela nous donne un toit si nous sommes itinérants? Devant la dureté de la vie et de ses problèmes, que vient donc faire ce Jésus crucifié et ressuscité? Eh bien, André, donne-nous un petit exemple.
Une amie vivait le dégoût d'elle-même. Elle se droguait, faisait la prostitution pour vivre, faisait partie d'une gang de criminels. Elle a vécu des bottes dures, mais elle a eu tout de même du fun, comme elle le disait bien. Cependant, elle ne s'aimait pas et vivait repliée sur elle-même. Elle fuyait dans l'alcool et la drogue la dureté de cette vie. Puis un jour, dans sa misère, elle s'est mise à crier et à prier. Dans son enfer, dans son tombeau, dans sa détresse, ce Jésus ressuscité il y a 2000 ans est venu lui donner du souffle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle prie le Notre Père, la prière de Jésus, et par le mouvement AA, elle vit son spirituel avec les 12 étapes. Heureuse de son retour à la vie, elle aide d'autres personnes à reprendre leur souffle.
Voilà, cette femme est devenue pour d'autres un témoin de la résurrection. Eh bien, pour découvrir Jésus aujourd'hui, le chemin reste le même que pour les premiers disciples. Il faut avoir vu le sens des Écritures, et cela nous pouvons le voir en lisant et en méditant l'Évangile dans la prière. Alors on pourra découvrir Jésus vivant dans la vie de ceux qui vivent déjà de Jésus ressuscité. Terminons par un autre fait. Etty Hilson, une jeune femme juive de Hollande, est morte à Auschwitz en 1943. Elle écrivait depuis son camp de concentration.
Il faudra bien que quelqu'un survive pour témoigner que Dieu était vivant, même dans un temps comme le nôtre. Et pourquoi ne serais-je pas ce témoin?
Et de quel Dieu va être témoin? D'un Dieu qui demande l'impossible, à savoir dans un tel contexte, aimer ses ennemis. Oui, elle écrit « Dieu est impuissant contre les crimes des hommes, sa seule gloire est d'aimer. Au milieu de l'horreur, il n'est pas un roi ou une providence qui pourrait inverser le cours des choses. Il est toujours avec les victimes, il est victime lui-même. » Oui, c'est ce Dieu victime du mal, qui doit être libéré dans le cœur de chaque être humain. Il doit être libéré aussi bien celui dans le cœur de la victime que dans celui du bourreau. Elle écrit
« La saloperie des autres, de l'autre, est aussi en nous. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. »
Voilà comment se vérifie encore aujourd'hui cette affirmation de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750. Vous nous trouverez également sur Internet, téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, bonne Pâques, Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia.